Nous accueillons sur les ondes de SBS le très renommé pianiste français Jean-Eflam Babouzet, qui se produit au Festival de Perth du 9 février au 4 mars. Bonjour Jean-Eflam.
Bonjour.
Vous jouez au Festival de Perth le 24 février, les tickets sont en vente sur le site. Ce n'est pas la première fois que vous venez en Australie, alors qu'est-ce qui vous attire ici ?
Oh, ben c'est vrai que ça fait un peu loin de la France, mais c'est un pays magnifique. J'y joue depuis 2012, où c'était l'orchestre d'Adélaïde et mon ami Arvo Folmer qui m'avait invité. Puis j'avais fait d'ailleurs un programme tout à fait similaire à celui que je vais faire samedi, puisqu'en 2012, on célébrait le centenaire de la naissance de Claude Debussy. Et aujourd'hui, en 2018, on célèbre le centenaire de sa mort. Et donc, c'est une musique qui m'est très proche. Alors, j'ai eu l'idée de présenter, non pas une intégrale de l'œuvre pour piano de Debussy, qui serait peut-être un peu longue à digérer. On parle à peu près de 4h30 de musique quand même, et puis surtout d'une musique très, très subtile, beaucoup d'effets de demi-teinte. Alors donc j'ai un peu peur que trop de beauté tue la beauté. Donc j'ai préféré proposer une grande sélection, puisqu'on a à peu près presque 3 heures de musique, que je propose en 3 parties différentes. Donc c'est plus long qu'un récital standard qui est fait généralement 2 parties de 40 et 30 minutes. Là, c'est à peu près 3 parties de 45 minutes chacun, 45 minutes, 50 minutes chacune. Mm-hmm. Et avec aussi une sorte de présentation des œuvres. Donc, c'est une sélection tout à fait arbitraire, mais enfin, quand même qui couvre les 20 ans de production de la musique si magique de Debussy.
Et alors, justement, donc vous vous inspirez continuellement de cet autre pianiste français du 19e siècle, Claude Debussy. D'où vous vient cette sorte de fascination un peu pour le personnage et sa musique ?
Alors, j'ai eu vraiment l'immense chance, travaillant au conservatoire, d'être l'élève, le dernier élève d'ailleurs, de Pierre Sancan. Pierre Sancan, qui était dans les années 60, sans doute le musicien français le plus actif en tant que chef d'orchestre, en tant que compositeur, il était Grand Prix de Rome de composition et en tant que pianiste. Et puis Pierre Sancan, pour des raisons qui me sont jusqu'à maintenant inconnues, a abandonné toutes ses activités et s'est consacré à l'enseignement du piano. Et c'est comme ça qu'il a formé la première génération de pianistes français capables de maîtriser techniquement les concertos très difficiles du XXe siècle. Je pense à Rachmaninov, à Bartok et à Prokofiev en particulier. Et je pense à mes illustres collègues, j'allais presque dire grands frères, que sont Jean-Bernard Pommier, Jean-Philippe Collard, Michel Béroff, pour ne nommer que les 3 parmi les plus célèbres. Et donc ce sont un peu mes grands frères musicaux. Et Sancan était très proche de la musique de Debussy. Il avait eu d'ailleurs Henri Busser comme professeur lui-même. Et me parlait toujours de Debussy avec beaucoup d'émotion. Mais, même si j'étais moi-même très intéressé et très admiratif, mais j'étais plutôt intrigué par la musique de Debussy. Je la jouais déjà au concert, mais c'était presque plus une attirance un peu intellectuelle et plus qu'émotionnelle, si vous voulez. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus tard, j'avais presque 40 ans, que soudain, une sorte de révélation mystique, en tout cas émotionnelle, m'a véritablement foudroyé. Et je me suis rendu compte vraiment du pouvoir, j'allais presque dire dévastateur, et en fait, de cette intensité émotionnelle qui m'était jusqu'à là presque cachée. Alors, c'était intéressant parce que après j'ai enregistré toute son œuvre et on a reçu plein de prix pour ses concerts. C'est un peu ce qui a relancé ma carrière il y a quelques années. Et du coup, tout le monde a dit « Ah oui, bien sûr, un pianiste français qui joue Debussy, ah, bien sûr, il n'y a que les Français qui peuvent jouer comme ça. » Mais c'est très curieux parce que pour moi, le contact que j'ai avec la musique de Debussy, c'est en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de passion, plus qu'une espèce de chose innée que j'aurais eu reçue avec mon passeport ou mon ADN français. Donc, Ça n'a, mon rapport à Debussy est un rapport de musicien, ce n'est pas du tout un rapport de français. Je ne dirais pas ça de Ravel, par exemple. Je me sens français quand je joue Ravel. Mais la musique de Debussy et la musique de Ravel, bien qu'elles sont très facilement associées et très facilement associables, sont en fait des musiques extrêmement différentes, qui n'ont quasiment rien en commun.
Et alors, pour revenir rapidement sur Perth, le concert, comme vous l'avez dit, va durer entre 4h, 4h30. Bon, bien sûr, avec des intervalles.
Avec les entractes et les conversations, bien sûr.
Oui, voilà, avec des intervalles. Mais comment est-ce qu'on se prépare, même physiquement, mentalement? Parce que, bon, vous avez l'habitude, j'imagine, mais c'est tout de même beaucoup de travail, non, à chaque fois?
Oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va être obligé. Je ne vais pas pouvoir parler trop longtemps parce que je t'arrête. Non, j'exagère. Je suis très content de vous parler, bien sûr. Mais oui, oui. Mais comme je disais, c'est des œuvres que. Il y a beaucoup d'œuvres d'abord que je joue depuis très très longtemps. Et puis c'est une sorte de marathon que j'ai déjà fait en 2012, par exemple. À vrai dire, oui, c'est. Oh, dans le genre marathon, vous savez, quand on joue les 5 concertos de Prokofiev en 2 soirs, comme je l'ai fait en Russie ou en Pologne, alors là, par contre, c'est vraiment énorme. Parce que physiquement, c'est extrêmement entraînant. Donc il faut se préparer très longtemps à l'avance. La musique de Debussy, c'est plutôt, il faut se rendre disponible à la musique. Je dis souvent, je pense que la musique de Debussy est faite de mystère. Donc si on n'est pas prêt à créer un mystère. Elle est très mystérieuse parce qu'elle est très subtile. Elle est insaisissable. Et c'est pour ça qu'elle est très différente de celle de Ravel, qui est beaucoup plus accessible. Ravel travaille avec un, si j'ose faire la comparaison avec la peinture, avec un gros pinceau. Debussy travaille par toutes petites touches. Donc ça veut dire que un peu à la mode des impressionnistes, dont d'ailleurs il se démarquait, mais des peintres impressionnistes, il faut avoir le recul pour pouvoir apprécier toute la forme du tableau. Mais quand on le regarde de tout près, c'est une myriade de petites touches qui sont très délicates et qui demandent plus une concentration, une disponibilité mentale, si vous voulez, que bon, il y a des choses assez techniquement très, très difficiles chez Debussy. Je pense à ce qu'a vu le vent d'ouest ou certaines des études qui sont vraiment qui demandent une agilité et une dextérité tout à fait qui demandent beaucoup de travail, mais c'est surtout cette disponibilité mentale, je pense, qui est très, très importante. On pourrait dire ça toute la musique, bien sûr, mais chez Debussy encore plus à cause du côté insaisissable. Si vous voulez, le mystère est fait que c'est une musique qui est extrêmement pensée. On pourrait presque même la qualifier d'intellectuelle. C'est ce qui m'attirait chez elle, jusqu'à ce que j'ai été, moi, donc, comme je vous l'ai dit, un peu, j'emploie le mot foudroyé, mais un peu soudain en contact avec son émotion. C'est-à-dire que sur cette surface très fine, très élégante, très, très travaillée, très intellectuelle, pour simplifier, se cache une véritable lave en fusion d'émotions quasiment, j'allais dire en anglais, unbearable, inacceptable, insupportable physiquement. Et cette émotion, elle est très proche, par exemple, d'une musique comme celle de Wagner. On sait très bien que les gens qui aiment la musique de Wagner, ils n'aiment pas la musique de Wagner. Ils sont fous de la musique de Wagner. On peut pas dire oui, j'aime Wagner. Non, ou on déteste, ou on en est complètement imprégné et complètement obsédé. Bah, la musique de Debussy, c'est un petit peu la même chose. Et comme il disait lui-même, il faut retrouver la chair nue de l'émotion. Et cette expression, je ne la comprenais pas avant d'avoir versé ma première larme en écoutant sa musique. Je ne la comprenais pas, cette phrase. Mais maintenant, oui.
Et est-ce que cette phrase, justement, elle s'applique aussi à la musique classique? Est-ce que ça séduit toujours? Est-ce que ça crée? Est-ce que la musique classique crée cette émotion? Encore et toujours?
Oui, mais enfin, la musique classique, faut pas exagérer, n'a pas le monopole de l'émotion musicale. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important, je pense, dont on ne se rend pas forcément compte. Cette musique dite classique est composer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un esprit supérieur musical qui s'est attelé à une table et qui a réfléchi à une structure, à une architecture, à des jeux de motifs qui se répondent, qui se superposent, qui s'opposent. Et donc, il y a tout un travail d'architecture musicale. Alors, on peut peut-être pas, l'auditeur lambda ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il entend, mais ce travail du compositeur engendre forcément une émotion, ou du moins crée des connexions cérébrales que d'autres musiques, aussi agréables et aussi jouissantes soient-elles, ne peut pas créer, parce qu'il n'y a pas tout ce travail derrière de construction mentale. Je pense que tout grand art est en fait une adéquation de plusieurs paramètres. Il doit y avoir évidemment une inspiration qui doit parler au cœur, une inspiration première qui doit parler au cœur de chacun. Mm-hmm. Il doit y avoir aussi tout un travail de construction qui doit nous parler sans forcément qu'on s'en rende compte. Hein? Et puis, il y a toute une technique, quelle qu'elle soit, qui doit quelque part aussi nous impressionner. Parce que si on pouvait comme ça se réveiller le matin et puis créer une symphonie tout à chacun.
C'est extraordinaire,
comme ça,
oui.
Ben voilà, donc il doit y avoir aussi une technique, un apprentissage. Et à partir du moment où vous avez ces trois ingrédients, ces trois angles d'attaque, j'allais dire, au plus haut niveau, bah, c'est ça ce qu'on appelle le grand art.
Et donc, alors, est-ce que vous avez un souvenir particulier d'un concert qui vous a marqué, peut-être ?
En tant qu'auditeur ou en tant que...
En tant qu'interprète. Oui, que musicien.
En tant qu'interprète ?
Oui.
Oh, ben, Dieu soit loué, bien sûr. Vous avez à raison de 80 concerts par an, je serais bien normal de vous nommer un concert. Mais il y en a au moins... une dizaine par an où je sors de scène en étant, je veux dire, l'impression d'avoir accompli ma mission, quoi. Oui, mais sinon il y a beaucoup de frustration, bien sûr, parce que la beauté, c'est inaccessible. Ça peut toujours être, Pierre Sancan disait quelque chose de merveilleux, ça peut toujours être plus beau, c'est sûr, ça peut toujours être plus beau, un concert. Et puis un concert, Pierre Boulez me disait, c'est un vrai miracle. Un concert est un vrai miracle. Tout peut arriver à un concert, le meilleur comme le pire. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est d'accepter le fait qu'on est des humains, donc on est des êtres faibles. Il faut accepter ses faiblesses, mais aussi on est des êtres humains, ça veut dire qu'on peut partager des choses extraordinaires ensemble. Et puis quoi de plus beau que de partager la beauté musique? Il ne faut pas oublier qu'un concert, c'est un moment absolument unique de partage. C'est pour ça que ça ne remplacera jamais, jamais, jamais un disque.
Et quels sont vos futurs projets alors? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oh, en tant que disque ou en concert?
Oui, en tant que disque et en concert. Les deux.
Beaucoup. J'ai la chance d'avoir une maison de disques formidable. Quand on pense que c'est quand même très difficile en ce moment pour les ventes de disques, et alors je croule sous les projets là. Donc je suis en train de, je viens de terminer un enregistrement des 32 sonates de Beethoven, et je suis en cours des 62 sonates de Haydn. Le volume 7 devrait d'ailleurs sortir bientôt. Il y en aura à peu près une 13. Ensuite, je me lance avec mon ami Gabor Takács-Nagy, qui est le violoniste fondateur du très célèbre quatuor Takács, qui est un chef d'orchestre et un musicien que j'apprécie énormément, un homme vraiment illuminant. Et nous allons enregistrer l'intégrale des concertos de Mozart. Donc on en est maintenant, on a fait déjà deux disques, il y a 27 concertos, donc oui, c'est des projets à long terme. Je vais faire un disque Schumann au mois de juillet, qui sortira sans doute avant l'été. Et puis, avant l'été prochain, je veux dire, l'été 19. Et puis, comme si c'était pas assez, je vais enregistrer les concertos de Beethoven, les 5 concertos de Beethoven, en les dirigeant moi-même du clavier, avec le Swedish Chamber Orchestra de Suède. Voilà.
Voilà, Jean-Yves Flamme, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une excellente continuation.
Merci beaucoup, merci, au revoir.
Au revoir.